Roberto Poirier, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Bien, vous aussi?
Oui, très bien.
Vous êtes co-auteur du livre « Les exercices qui vous soignent, troubles de la posture et ergonomie ». C'est le deuxième tome. C'est publié aux éditions de l'Homme. Et ce que je voulais te dire d'entrée de jeu, Roberto, c'est que j'ai particulièrement apprécier l'approche que vous proposez, une approche qui est globale, parce que vous parlez d'alimentation, vous parlez de l'impact du stress, même de spiritualité, ce à quoi on ne pourrait pas nécessairement s'attendre de la part de kinésiologues, de l'environnement également. Donc, vous abordez vraiment le concept de santé globale qui n'est pas toujours nécessairement évident ou clair pour l'ensemble du public. Souvent, ce qu'on voit, c'est OK, on est malade, on prend des médicaments, puis on vise une guérison, mais vous abordez les choses vraiment différemment.
Oui, on peut voir les choses de deux façons. C'est-à-dire que des fois, des interventions locales sont nécessaires. Par exemple, si vous faites une fracture, on va devoir plâtrer la région qui a été fracturée. Mais dans l'ensemble, le processus de guérison doit prendre considération que chaque individu, c'est une personne différente d'un autre. Mais il y a des grands concepts comme la génétique, l'alimentation, le stress, le mouvement, l'environnement et la spiritualité qui fait ce qu'on est, qui va faire qu'on va s'investir dans notre programme de réhabilitation d'une façon X versus l'autre va faire d'une façon différente. Donc, toujours adapté à la personne à laquelle on s'adresse, mm-hmm. une programmation d'exercice, ça c'est important.
Vous accordez aussi... Oui, pardonnez-moi, allez-y.
Puis je disais considérer la personne comme justement une personne et non pas un ensemble de bobos.
Oui, oui. Vous approchez aussi dans votre livre tout ce qui est lié aux médecines alternatives, aux médecines complémentaires. Pour vous, ça a une place importante également dans le processus.
Bien, tout à fait. Vous savez, moi, lorsque j'ai commencé il y a 30 ans, les thérapies complémentaires, c'était... On se faisait appeler les médecines douces, puis par beaucoup de médecins, des charlatans. Mais avec le temps, ces médecines dites complémentaires sont devenues des médecines alternatives et complémentaires, les MAC. Et on fait maintenant des représentations, mm-hmm. c'est-à-dire des présentations dans les facultés de médecine des différentes universités pour expliquer quels sont les MAC, qu'est-ce qu'ils font comme travail, en quoi ils excellent, dans quoi ils sont plus orientés, puis c'est quoi leur formation. Donc, ça a beaucoup évolué depuis les années 80, je vous dirais. Là. C'est un pas de géant qui a été fait dans ce domaine-là. Puis c'est important que les gens comprennent et fassent la différence entre les différentes médecines alternatives et complémentaires. Et c'est pour ça que le docteur Drouin, puis on l'a fait faire par le médecin de notre groupe.
Oui, ça donne la crédibilité, hein, veux pas?
Oui, tout à fait, pour qu'il y ait une indépendance d'esprit et non pas que ce soit pas biaisé d'un côté ou de l'autre.
Oui. Et ça, on va y revenir, bien sûr, parce que oui, il y a eu des avancées, de l'ouverture, ça c'est bien, mais maintenant l'offre est tellement grande, ostéopathie, acupuncture, massothérapie, des fois on s'y perd un peu. Mais avant, je veux revenir vraiment peut-être à la base du livre, qui est ben, par le mouvement, vous pouvez amoindrir la douleur et il faut bouger, même si on a des maux.
Il faut bien bouger et il faut faire les bons mouvements surtout. Un mouvement peut être très positif, comme il peut être très néfaste si ce n'est pas le bon mouvement. Si, par exemple, vous en allez faire courir sur un tapis roulant un cardiaque qui est en session d'épuisement, le risque est trop grand. Donc, il faut toujours prendre en considération quelle est la blessure et, dans ce qu'on disait auparavant, c'est qui l'individu qui est devant nous? C'est quoi sa globalité comme individu? Donc, oui, on va le faire bouger, mais on va surtout bien le faire bouger, lui faire faire les bons mouvements qui lui sied bien comme tel.
Mm-hmm. Votre livre est très pratique, Roberto, donc j'ai envie de vous poser une question qui est également tirée du quotidien. Un collègue de travail qui vient de me dire, là, ça fait à peine 10 minutes, « Bon, je viens d'avoir un bébé, je bouge moins, je fais de longues routes en transport en commun, en autobus, je suis souvent assis pour le boulot, je sens que je suis en train de me tendre, de peut-être développer
dans
des
kilos,
petits bobos.
Ouais. »
Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme suggestion?
Bon, premièrement, l'élément le plus facile, ça demeure la marche. Aller prendre une marche lors du dîner ou dans les pauses, monter les escaliers à pied plutôt que prendre l'ascenseur. D'être actif de façon cardiovasculaire, c'est indispensable à tout bon programme de conditionnement physique. Maintenant, selon le travail qu'on fait, par exemple, si vous, à la journée longue, vous êtes devant un poste ordinateur et vous travaillez avec la souris, il est possible que vous développiez une épicondylite à la longue. Donc, faire attention et prendre des micro-pauses pour s'étirer. Donc, dans notre quotidien, dans notre 8 heures de travail que tout le monde fait à peu près, on devrait avoir des micro-pauses qui durent environ une trentaine de secondes, plusieurs fois, à toutes les heures, un 30 secondes à toutes les heures, pour prendre le temps de s'étirer en fonction du travail qu'on fait. Si on est assis, donc, on va étirer les avant-bras, on va étirer le cou, on va bouger le cou, parce qu'on a tendance à... Plus on se concentre sur quelque chose, plus on porte attention, on a tendance à antéprojeter la tête, à envoyer la tête vers l'avant, puis plus on focus sur quelque chose, plus on va le faire encore. Donc, prendre le temps de bien faire l'effet contraire, de s'auto-grandir, d'étirer comme il faut, c'est indispensable. Puis ça évite l'accumulation qui va créer de l'ankylose, comme tel.
C'est quoi les mots qu'on retrouve le plus souvent à notre siècle?
Le gros problème de notre siècle, c'est qu'on est passé d'une population debout à une population assise. Donc, en fonction de ça, beaucoup de problèmes au niveau du bas du dos, donc de la région lombaire, parce que moins de support, les muscles des abdominaux et des spinaux travaillent moins fort parce qu'ils sont appuyés. Beaucoup de problèmes au niveau des avant-bras, comme les épicondyles, les épicondylites, les problèmes posturaux aussi. L'antéprojection de la tête, c'est un exemple, mais l'enroulement des épaules, c'est un autre exemple. La bascule de l'épaule, c'est un autre exemple. Les surpoids ont fait que beaucoup de valgus de genoux se sont développés, des problèmes au niveau du genou se sont développés, des problèmes au bas du dos se sont développés aussi. Le manque d'activité quotidien a fait qu'on a la population est devenue beaucoup plus en surpoids, puis avec le surpoids est arrivé d'autres problèmes. C'est un peu un cercle vicieux qui fait qu'on n'en sort pas. Si on ne fait pas d'activité, si on ne bouge pas, on va ankyloser, puis plus on ankylose, moins on a le goût de bouger, moins on a le goût de bouger, moins on bouge, plus on ankylose.
Ah ouais, c'est un cercle vicieux, comme on dit. Je pense que la difficulté des gens pour entendre des commentaires dans mon entourage, notamment quand je vais parler avec un kinésiologue, je vais aborder ce sujet-là de l'activité physique, des exercices, c'est cette difficulté-là de l'inclure dans le quotidien. Ça demeure le grand défi, Roberto.
Oui, parce que les gens le voient comme une contrainte. Puis souvent, et même je vous dirais que les professionnels en ont fait une contrainte. Maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est donner beaucoup plus 3 exercices par jour à faire matin et soir. Et on les change régulièrement, on fait une variation pour éviter la monotonie, pour éviter la routine, puis pour éviter que ça prenne 25-30 minutes. Personne n'a 25-30 minutes à faire. Si on le fait, on fait une activité organisée habituellement. Mais règle générale, un 5 à 10 minutes matin et soir, tout le monde est capable de prendre ça. Donc, on essaie de faciliter l'accessibilité à ça pour avoir des résultats spécifiques puis pour que les gens les fassent. Et il faut être logique. Si on s'adresse à quelqu'un qui est de tendance à être inactif, essayons pas de lui faire de l'activité trop rapidement. Changeons les habitudes de vie, modifions ses comportements graduellement, puis on va avoir des meilleurs résultats.
Il y a un autre passage que j'ai bien aimé dans votre livre, c'est le passage où on explique est-ce que votre environnement de travail est adéquat. Ce serait quoi les petits trucs à observer pour savoir si notre ordinateur, notre chaise, c'est adéquat et c'est bon pour notre santé?
Bien, on le fait sur 3 points, si vous regardez dans le livre. On le fait autant sur la conduite automobile, on n'y pense pas, mais vous preniez votre exemple de tout à l'heure de votre confrère qui dit qu'il passe beaucoup de temps sur la route. Si son siège n'est pas adéquat, ça se peut qu'il se ramasse avec un problème de type sciatalgie, qui est douleur à la fesse, qui irradie dans la jambe, parce que son siège n'est pas ajusté comme il faut. Donc, on a essayé de donner des conseils de toujours avoir le genou plus haut que la hanche, que le siège une inclinaison vers le bas, vers l'arrière, le dossier soit plus à 90 degrés avec le siège, pour avoir cet effet qu'on appelle l'effet Recaro. Vous savez, les sièges des automobiles de course, c'est un monsieur Recaro, qui est un Italien, qui a inventé cette technique, ce modèle de siège-là. Puis c'est vraiment adapté pour que les gens puissent faire 3 heures de temps à des vitesses incroyables. Donc, c'est une belle posture de sur le siège. Au niveau de l'ordinateur, ben c'est sûr que les jambes à 90 degrés, les bras à 90 degrés, l'écran environ une longueur de bras de vos yeux. Vos yeux devraient être aux 2/3 de l'écran à peu près. Déjà là, vous êtes en bonne posture. Des fois, un appui-pied peut être nécessaire, mais à ce moment-là, c'est vraiment lorsqu'un ergonome vous fait une évaluation, il va pouvoir ajuster votre poste de travail. Mais on a mis dans le livre des conseils de base là, sur autant sur l'angle des coudes, le support des avant-bras, la position du dos, etc.
Et évidemment, quand on feuillette le livre, on s'amuse un petit peu à vérifier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis, c'était pas si mal. J'étais quand même assez satisfaite de mon environnement de travail. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Roberto, vous abordez également dans le livre les exercices thérapeutiques. Ça, pour moi, c'était pas tant clair. Qu'est-ce que c'était?
Un exercice thérapeutique, c'est-à-dire que tous les exercices sont thérapeutiques, mais ils sont encore plus lorsqu'ils s'adaptent à une situation ou à une posture. Par exemple, à une pathologie, on peut avoir des exercices. Si vous faites une entorse, par exemple, une entorse, c'est un étirement d'un ligament. L'étirement d'un ligament va créer de la laxité ligamentaire, ce qui va créer de l'instabilité au niveau de l'articulation. C'est important de tonifier et de stabiliser cette articulation-là par des exercices de tonification qui vont être adéquats. On n'étirera pas la région qui est blessée parce que c'est déjà un problème de laxité. On va surtout vouloir tonifier la région qui est touchée pour que la musculature joue le rôle de ligament actif. Donc, s'adresser à la pathologie comme s'adresser à la posture aussi. Quelqu'un qui a la tête antéprojetée, bien, on va faire des exercices pour lui ramener la tête vers l'arrière, faire des exercices d'autograndissement, ce qui va stabiliser son cou, qui va faire qu'il va avoir moins tendance à envoyer la tête vers l'avant. Quelqu'un qui a les genoux vers l'intérieur, on va renforcer les muscles qui vont amener les genoux vers l'extérieur, comme les abducteurs, par exemple. On va être spécifique dans notre approche et c'est ce qui fait que c'est thérapeutique. C'est que le but de l'exercice est de modifier soit un comportement postural ou soit une compensation qu'on a fait suite à une mauvaise posture ou à une pathologie.
Une autre chose à laquelle je m'intéresse, parce que j'ai l'impression, Roberto, que, oui, bon, vous le disiez tout à l'heure, là, les mots que l'on connaît dans notre temps sont souvent les mots dos, on parlait de tendinite, tout ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de chronicité, c'est-à-dire qu'on a de la douleur, on soigne cette douleur, soit par des médicaments ou différents traitements, mais ça revient sans cesse, et on a l'impression qu'on ne se sortira jamais de ce cercle-là. Comment on évite les récidives de blessures ou de différentes douleurs?
Premièrement, on identifie quelle est la cause, ça c'est important. Qu'est-ce qui a causé ça? On prend des comportements pour éviter de reproduire ce qui cause le problème, et on fait des exercices qui vont prévenir. Le rôle de l'exercice, c'est un rôle en premier lieu de prévention. Malheureusement, on est une société beaucoup plus d'intervention que de prévention. Les budgets dans la prévention sont minimes par rapport à ceux dans l'intervention.
Oui, c'est vrai.
Donc, si on prévenait plus, en bout de ligne, à l'hôpital, on aurait beaucoup moins de monde qui serait là, on aurait beaucoup moins de traitements à faire, on aurait beaucoup moins de dépenses reliées à l'intervention si on faisait plus de prévention. Donc, identifier, prévenir par des exercices, puis prévenir aussi, c'est sûr que lorsqu'on a une problématique, prendre la médication adéquate, consulter un spécialiste du domaine dans lequel on, par exemple, votre pharmacien, votre médecin, c'est lui qui va vous suggérer le bon dosage pour votre médication. C'est pas à nous à s'inventer pharmacien ou médecin là, comme tel.
Avant une journée de travail, là, par exemple, je m'adresse à des gens qui travaillent devant un ordinateur, c'est-à-dire bien assis. Est-ce qu'on devrait s'échauffer? C'est une drôle de question parce que souvent, l'échauffement, on l'attribue à des sportifs ou avant de faire une activité sportive, mais est-ce que ça pourrait être une bonne idée de le faire quand même si on est plutôt assis toute la journée?
Vous avez un sens de devin parce que notre troisième tome qu'on est en train de terminer, il va se terminer à la fin du mois, est sur les activités sportives, justement. Puis ça va être quoi faire comme échauffement, quoi faire comme phase de récupération, puis quoi faire comme phase de conditionnement physique pendant la semaine. Donc, c'est vraiment ça qu'on veut faire. Dans le quotidien, quelqu'un qui travaille au bureau, effectivement, si on va travailler de façon statique, inactif pendant un certain temps. Au préalable, on devrait avoir solidifié, préparé notre musculature en conséquence, étiré les muscles qui doivent étirer, tonifier ceux qui doivent être toniques, vraiment équilibrer notre corps en fonction de l'activité qu'on fait. Toujours penser à qu'est-ce qu'on fait comme activité, donc ça sollicite tel muscle, ça demande telle posture, mais je vais préparer le corps à ces postures-là de façon beaucoup plus modérée en premier, doucement, graduellement, puis après on peut, par exemple dans le cas d'une activité sportive, augmenter le rythme, mais dans le cas du quotidien, une préparation modérée et adéquate qu'on a décrit dans les livres, dans les exercices d'ailleurs, là, comme tel, tout ce qui est étirement, tout ce qui est proprioception, ça devient très intéressant.
Mm-hmm. Et si on manque d'inspiration, eh bien, on peut feuilleter les exercices qui vous soignent, troubles de la posture et ergonomie, parce qu'il y a vraiment plein d'exercices bien détaillés pour nous indiquer qu'est-ce qui est le plus approprié pour nous. Et également, parce qu'on n'aura pas eu le temps ensemble, Roberto, la description de toutes ces médecines complémentaires, ostéopathie, massothérapie, kinésiologie, etc., pour savoir ce qui vous convient davantage. Roberto Poirier, vous êtes, oui, le co-auteur de ce livre-là, édité aux Éditions de l'Homme, et également kinésiologue, éducateur physique, orthothérapeute, et vous enseignez à l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
Merci, c'est très gentil. Puis, en ce qui a trait aux différentes thérapies alternatives, rappelez-vous toujours une chose, il n'y a pas de mauvaise pratique, il n'y a que de mauvais praticiens.
Merci du conseil.
Parfait, merci, je vous souhaite une bonne journée.
Merci à vous aussi, au revoir.
Au revoir.